Alors, on est parti les movers. Comme d'habitude, une nouvelle foire aux questions. C'est déjà la sixième. On est déjà au 30e épisode du podcast. C'est absolument incroyable. Je vous remercie tous de votre fidélité, de votre loyauté et de partager autant que possible le podcast. Ça fait énormément plaisir. Je l'annonçais aussi dans les emails. On a atteint 10 000 téléchargements. Yay! Ce qui est une petite victoire, mais voilà. C'est un peu le côté cool et le côté excitant dans les petits projets entrepreneuriaux, c'est que ça marche, quoi. Donc voilà, je vais m'abandonner à cette sensation de joie, d'abondance et de gratitude. Donc je vous remercie infiniment. Comme d'habitude, tous les 5 épisodes, j'essaye de donner la parole aux différents membres de la petite tribu de Movers qui grandit, hein, qui grandit. Et donc j'essaye de répondre aux questions qui pourraient être des questions voilà, qui s'adressent à un peu plus de gens. J'ai souvent les mêmes questions, les mêmes problématiques, que ce soit sur le mouvement, sur la mobilité. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de leurs blessures et j'ai les mêmes blessures qui reviennent, etc. Donc l'idée de base, c'était de permettre à tout le monde d'avoir un petit espace dans lequel on partage les réponses, comme ça tout le monde en profite et que moi, j'ai pas à taper tous ces emails. Et voilà, ça a commencé à se transformer un peu en petite plateforme, comme je dirais, comme si on allait à l'Acropolis. Là, je suis en Grèce, donc je pense à ça. Un petit auditoire dans lequel on parle de différents sujets, pas seulement la mobilité, le mouvement, le bien-être physique, mais également, voilà, on a eu des questions sur le nomadisme, sur l'entrepreneuriat, sur la santé holistique, sur la motivation, sur l'aspect mental, sur la discipline. Bref, toutes les choses un peu annexes, mais qui nous permettent de vivre et d'exploiter un peu plus notre potentiel. Donc voilà un peu pour la présentation. Aujourd'hui, sixième foire aux questions. Donc, je vous invite également à aller voir les autres. Hein, comme ça, on voit où est-ce que les questions se dirigent. Et voilà, vous allez pouvoir piocher différentes réponses et appliquer selon votre cas de figure. Donc, aujourd'hui, comme je le disais au tout début, on a cinq grosses, grosses questions. Donc, on va démarrer pleine balle. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le chat. Donc, ça me fait très plaisir. Je réponds à vos questions en fin d'épisode. Mais n'hésitez pas, si la question que je suis en train d'adresser ou si le propos que je tiens vous fait penser à quelque chose, tapez-le immédiatement dans le chat. Comme ça, moi, j'ai juste à la fin, juste à relire toutes les questions et je les aborderai de manière chronologique, d'accord? Donc, ne vous privez pas de taper, d'envoyer des petits cœurs et des emojis, ça fait toujours plaisir. On attaque avec la première question. Hello Slim, donc je vais les lire en entier, elles sont assez longues. Hello Slim, concernant un sujet à aborder dans cet e-book, ah oui, c'était à propos d'un email dans lequel je partageais la prochaine sortie de l'e-book qui arrive dans 2 mois d'ailleurs. Donc je recommence. Hello Slim, concernant un sujet à aborder dans cet e-book peut-être, ou bien dans une série de mails, c'est le thème des paliers que vous abordez avec Nicolas De Paoli, encore un podcast incroyable. J'aimerais à titre personnel pouvoir approfondir le sujet. C'est quelque chose, quand on y réfléchit, auquel on est tous confrontés dans la vie, quelle que soit notre pratique. Je comprends qu'atteindre un palier dans une pratique est synonyme de limite, voire de stagnation, et que ça implique des changements et un renouvellement. Mais concrètement, comment se renouveler? Où et comment trouver de nouvelles inspirations? Comment fais-tu pour trouver de nouveaux mouvements, pour rester dans ce domaine qui est le tien? Et aussi, quelle est ton expérience à ce sujet? Donc voilà, beaucoup de questions. Voilà un sujet bien costaud qui, quand j'écris ce mail, me fait poser 1 000 questions. J'en profite pour te remercier à nouveau de nous faire partager ton savoir, expérience et bonnes vibes avec des invités incroyables au travers des podcasts. Merci, bonne journée à toi. Clément, merci mon Clément pour tous ces messages de positivité. Donc là, il y a beaucoup de questions en une. Je vais essayer d'orienter la discussion. Et donc d'abord sur le renouvellement. On atteint tous des paliers, ça c'est, je pense, c'est acté. Peu importe la discipline, la pratique, que ce soit une pratique physique ou autre, hein, vous pouvez travailler dans une entreprise pendant 3 ans et vous rendre compte que vous faites tous les jours la même chose, vous avez atteint un palier. Comment se renouveler, où et comment trouver de nouvelles inspirations? Alors personnellement, moi, la première chose que je fais, c'est avant même d'aborder un entraînement ou une pratique ou quelque chose, je me dis déjà qu'il y aura une limite. Je me dis déjà que mon corps ou mon esprit va s'adapter et que je vais atteindre un palier dans lequel je vais commencer à m'ennuyer et je vais commencer à pas progresser. Donc ça, c'est quelque chose, on en parle également dans le podcast avec Nicolas. La première chose à faire, c'est d'accepter le truc, en fait. On est des êtres de changement. Dans la nature, tout fonctionne grâce au changement. Tout est cyclique. Ce n'est pas possible de rester à un même état d'esprit, à un même mindset, à un même état physique. C'est impossible. Quand tu vois même quelqu'un, par exemple, tu prends un culturiste, un bodybuilder, qui a un physique absolument incroyable toute l'année pendant 20 ans. Ça, c'est ce que tu vois d'un œil extérieur. Mais quand tu zoomes sur sa pratique et sur la manière dont il a structuré son année, il y a énormément de différentes phases, différents cycles, que ce soit des cycles de 3 mois de prise de masse et après de la sèche. que ça soit des changements d'alimentation, des changements de compléments, etc. Donc là, l'exemple, il est très parlant parce qu'on voit les changements physiquement. Mais pour d'autres pratiques, par exemple la danse, le parcours, des pratiques qui sont un peu plus basées sur l'acquisition de compétences, il est très difficile d'être à même de se juger. Au bout d'un moment, tu vois que tu arrives à faire des choses assez facilement, mais après, si tu fais 10 ans un saut de chat, tu sais pas en fait si tu as évolué, si tu as progressé. Et ça se trouve, en fait, ça fait 3-4 ans que tu stagnes et que tu es dans le même plateau. Donc pour toutes les choses un peu comme ça, la première étape, c'est de l'accepter. Et je pense que ça va te permettre également de te mettre, pas des deadlines, mais de comprendre que j'atteigne un plateau ou pas dans 6 mois, je me donne 6 mois pour atteindre cet objectif, par exemple, et après, je vais me forcer à changer. D'accord? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, voilà, les 3 à 4 prochains mois, je vais faire, je sais pas moi, que de la force. Même si dans 4 mois, j'atteins quand même des progressions et que j'ai pas encore atteint ce plateau, je change. Tu vois? Donc ça, c'est parce que j'ai fait l'expérience beaucoup de fois dans ma vie de plateau. Mais si c'est la première fois que tu t'en fais l'expérience, il faut que tu arrêtes, en fait. Il faut que tu changes quelque chose. La chose a changé. Avant de trouver de nouvelles inspirations dans tes mouvements et de chercher quelque chose ailleurs, s'il y a énormément de facteurs que tu peux changer déjà. Par exemple, on a parlé aussi avec Nicolas, que ce soit les tempos, la vitesse d'exécution, l'intention que tu mets dans l'exercice ou dans le mouvement. Si par exemple tu fais, je sais pas moi, beaucoup de travail au sol, tu changes la vitesse. Fais un travail d'endurance de force dans lequel tu bouges pendant longtemps. Travaille ton explosivité, ta puissance, ta vitesse. D'accord? Donc tu peux changer déjà ces différents paramètres en gardant les mêmes exercices et les mêmes protocoles. Après, si tu atteins encore un plateau là-dedans, il va commencer à enfin, il va falloir changer de protocole. Si par exemple tu faisais, je sais pas moi, toujours la même chose, la même routine, le même circuit pour ton entraînement physique, il serait intéressant de commencer à modifier le protocole en lui-même. C'est-à-dire que si par exemple tu avais déjà une semaine dans laquelle tu faisais du, je sais pas moi, push-pull legs par exemple, donc pousser, tirage et travail sur les jambes, eh bien, essaye par exemple de faire une séance dans laquelle tu combines les trois. Essaye de séparer les trois séances. Essaye de faire une séance dans laquelle tu fais que de l'endurance de force. Essaye de faire une séance dans laquelle tu fais, je sais pas moi, tu fais des pyramides, des scales, de l'EMOM, travail explosif. Tu changes les exercices. Tu faisais, je sais pas moi, que tu travailles au dumbbell, tu mets des kettlebells, etc., etc. Et comme ça, tu vas continuellement, en fait, renouveler le stimulus et tu vas permettre à ton corps de s'adapter à quelque chose de nouveau. D'accord? Donc c'est ça un peu pour la partie comment se renouveler. Et après pour les nouveaux mouvements, ça je pense que tu dois faire référence à cette idée comment j'acquiers en fait de nouvelles compétences ou même comment j'en crée par moi-même. Ça je pense que c'est quelque chose qui vient en fait avec l'expérience et avec le temps. Il faut s'autoriser, il faut se donner le temps de plonger dans plusieurs pratiques, pas en même temps, mais justement une pratique pendant longtemps et après switcher. Et l'accumulation de ces cycles-là, par exemple de 2-3 ans, dans lesquels tu fais, je sais pas moi, tu fais que de la salsa pendant 2 ans, et tu fais, je sais pas moi, que du break pendant 2 ans, après que de la house, et ben au bout de 6 ans, tu auras fait trois gros types de danse, et en fait, la manière dont tu vas aborder le mouvement et la rythmicalité ou la musicalité, la relation avec le corps, avec le partenaire de danse ou avec la musique, ça va commencer à te permettre de créer par toi-même, d'accord? Et après, l'acquisition de nouveaux mouvements, tu vas l'avoir dans absolument tout. Tu vas pouvoir regarder un documentaire animalier et penser à un travail au sol que tu vas pouvoir implémenter dans ta danse, par exemple. Si par exemple tu fais du crossfit et que tu t'ennuies avec les routines, avec les WOD ou je sais pas quoi, tu pourras regarder, je sais pas moi, un entraînement de quelqu'un qui fait de l'escalade et trouver de l'inspiration pour améliorer peut-être tes keeping pull-up, tes mouvements de traction, etc., etc. Donc l'inspiration, je pense qu'avant tout, il faut pas la chercher ailleurs, il faut pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est parce que il n'y a pas de, il faut pas, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je recommande. On a toujours cette idée, tu vois, des grands gourous de mouvement ou de danse qui te disent, ouais, moi, je trouve de l'inspiration en regardant des bébés et en regardant des animaux à la télé. Oui, mais c'est parce qu'en fait, toi, t'as fait 25 ans de pratique, et donc au final, maintenant, ton œil, il commence à percevoir ces choses-là. C'est comme l'artiste peintre qui a peint énormément de toiles. Il a fait énormément, je sais pas moi, de paysages. Et là, évidemment, le mec, il va regarder une feuille, il va pouvoir te peindre un truc à partir d'une feuille. Mais pour le commun des mortels, ou quelqu'un qui n'a pas passé autant de temps dans la pratique, tu vas pas pouvoir commencer à choper ce genre d'informations et ton cerveau va pas être capable de justement trier les informations dans cet objectif-là. Je pense que l'inspiration, elle peut arriver ou elle peut être stimulée que quand tu arrives aux limites d'une pratique. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait assez cette pratique-là, tu vas pas atteindre la limite. C'est-à-dire que si tu prends une pratique et tu la visualises sous la forme d'un cercle, si t'es pas au bord de ce cercle, tu vas pas pouvoir choper des choses, tu vois. C'est-à-dire que tu es encore dans le milieu, donc tu es encore un débutant et il te faut déjà maîtriser ce qu'il y a ici pour pouvoir après te rapprocher de l'extrémité et commencer à avoir ces petites inspirations et te rapprocher de l'idée de ah ben là je vais pouvoir innover quelque chose, tu vois. C'est un peu de la même manière avec la science ou les révolutions scientifiques. Il y a les mecs qui inventent des choses, c'est parce qu'ils ont d'abord passé 15-20 ans dedans. Ils ont tellement approfondi le sujet, ils ont tellement un niveau d'expertise élevé qu'ils sont en fait au bord de l'inconnu, de ce qu'on ne sait pas. Et c'est là en fait où il y a l'inspiration, tu vois. Mais si tu commences maintenant, y a une phase d'ennui que tu vas devoir subir, et ben donc tu restes à t'ennuyer, quoi, tu vois. Et pour refaire un peu le parallèle, enfin pour raccrocher les wagons avec l'idée de plateau, il faut pas que tu dises non plus qu'à chaque plateau, il faut que tu commences à tout changer et à faire n'importe quoi. Commence comme je te disais. D'abord, regarde ce que tu as fait, change les intentions, change les tempos, les fréquences. Après, tu peux changer le protocole. Après, tu peux changer la discipline. Mais il faut quand même mettre du temps dans ces pratiques-là pour pouvoir espérer un jour commencer à créer quelque chose de nouveau ou à avoir cette idée de « Ah putain, j'ai une idée, quoi, je pense à un truc. » Avoir des idées et avoir de l'inspiration, c'est un entraînement. Donc, si tu ne passes pas assez de temps à le faire, tu vas pas avoir de nouvelles idées, de l'inspiration pour de nouveaux mouvements. D'accord? Ça aussi, je pense que c'est un des mythes qu'il y a autour de l'inspiration, que ce soit dans le sport, dans la partie, dans la physicalité et dans l'expression, artistique, ou dans l'entrepreneuriat, dans le travail. Les mecs qui ont des nouvelles idées, qui innovent, ce n'est pas des mecs qui viennent d'arriver dans le sujet. C'est des mecs qui ont déjà beaucoup, beaucoup travaillé. Et voilà, moi, à mon humble niveau, voilà, j'ai mis 20 ans, plus de 20 ans de sport, en fait. Donc, il y a, je sais pas, il y a au moins 6 à 7 grosses disciplines que j'ai faites pendant des années. Et après, j'ai fait beaucoup de petites disciplines, quelques mois par-ci, par-là. Et donc, c'est tout ce background-là, en fait, qui fait que je peux potentiellement avoir des idées, avoir de l'inspiration, combiner, créer des nouveaux mouvements. Et même dans la manière dont j'enseigne, ça se traduit parce que voilà, j'ai cette petite particularité de pouvoir combiner, échanger, de pouvoir analyser le mouvement un peu de manière différente. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se développe avec du temps et je pense qu'il faut faut se laisser le temps de se faire ces petites expériences-là, d'avoir un plateau, d'aller au-dessus, de changer quelque chose et en fait de commencer à développer ta compétence à la résolution de ton propre problème physique. Et une fois que tu as fait ça suffisamment de temps, je pense que par la suite, tu vas pouvoir être à même de créer. Donc voilà pour ma réponse sur les plateaux et cette idée de l'inspiration, où la trouver. Voilà. Donc je regarde, ok, il y a des petits commentaires déjà. Magnifique. On passe à la question 2, je les enchaîne et après on reviendra à la discussion, surtout que les dernières questions sont longues. Deuxième question. Je vais boire un peu de thé parce que là, ma bouche, ça sèche déjà. Deuxième question. Hello, j'aime beaucoup ce que tu as écrit. J'ai par contre toujours une résistance débile sur ces points. Mon âge, qui doit être à peu près celui d'Ido Portal, même si personne ne sait quel âge il a. Point is, I am no Ido Portal indeed. Comme si parce que j'ai perdu tant de temps, pensée entre parenthèses, avant de découvrir par hasard, entre parenthèses, la mobilité, je sais que je n'arriverai jamais à bouger comme toi ou ta sœur avec un cœur, entre parenthèses, parce qu'il me faudrait une autre vie pour y parvenir et que je peux lutter contre l'entropie, je ne peux pas lutter, j'imagine, et conserver mon assez bon état général, mais pas méga progresser. Si tu avais quelques réflexions sur ce point, dans un prochain mail, ce serait certainement intéressant. Merci beaucoup. Une bise, Sylvia. Pour un peu recentrer la question, parce que je pense que c'était une question et on avait déjà échangé auparavant. Il y a plusieurs thèmes ici. C'est est-ce qu'on peut se rétablir, se fixer et retrouver un niveau de mobilité, de mouvement suffisant, peu importe l'âge? Ça, c'est un peu la première question. La seconde question, qui va créer aussi d'autres pistes de réflexion, c'est l'idée de est-ce que j'ai besoin justement d'une autre vie en fait pour atteindre ces choses-là? Est-ce qu'il n'est pas trop tard parce que j'ai pas commencé assez tôt? Donc la relation au temps. D'accord? Et ça va me permettre aussi après d'adresser la petite partie, le danger de se comparer aux gens sur Internet. D'accord? Donc on va commencer par la première partie. Est-ce qu'il est possible de se rétablir, peu importe son âge? Et quand je dis se rétablir, c'est de retrouver un niveau de mobilité suffisant et une capacité à bouger le corps suffisante. La réponse simple, c'est oui, sinon je ne ferais pas ce que je suis en train de faire et de proposer dans mon académie de mouvement en ligne si je ne savais pas déjà que c'était faisable. En partir pour argumenter ça de manière très simple, c'est que le corps, en fait, il est conçu pour ça. Nos articulations, les tissus qu'on a, tout est conçu pour se régénérer. On a cette capacité d'auto-régénération, d'auto-guérison. Sinon, on n'aurait pas pu survivre autant d'années sur cette planète et on n'aurait pas pu justement transmettre aux générations futures tous toutes les améliorations qu'on a pu, toutes les adaptations qu'on a pu créer grâce aux différents stress, que ça soit il y a des millions d'années avec la chasse, fuir les prédateurs, jusqu'à très récemment, que ça soit changer l'alimentation, s'adapter à d'autres alimentations. Voilà, nous, on est la résultante de toutes ces adaptations-là. Et donc, on a cette capacité en nous, justement, d'être capable de nous adapter, de nous améliorer. Voilà, preuve en est, bah, lifespan, life expectancy, la durée de vie, comment on appelle ça? C'est pas la longévité. Bref, je sais plus, la durée, le nombre d'années qu'on a pour vivre. D'accord? Donc, on vieillit plus, enfin, on meurt plus tard. Je ne sais plus comment dire ça en français, je suis désolé. On meurt plus tard qu'avant, bref. Donc, ça c'est le premier point. Il est possible de se rétablir, peu importe ton âge. Après, du point de vue technique, pourquoi il est possible de se rétablir? C'est que la mobilité, la capacité à bouger, c'est avant tout le travail de ton système nerveux. C'est être capable de reconnecter ton cerveau avec les différentes articulations. Alors même s'il y a des... tu as créé des déficiences musculaires, des déséquilibres articulaires et musculaires, tu as des tissus qui ont changé, qui sont moins flexibles, parce que justement, avec tous ces stress, ces mauvaises postures, ce manque de mouvement, tu as évidemment habitué ton corps à cette immobilité. Et ton corps, quand je dis habitué, c'est physiologiquement. Il y a des vrais changements au niveau des tissus qui se passent. Donc techniquement, tu es moins souple ou moins capable de redevenir souple. Cependant, tout ce travail-là, tu peux le rétablir car c'est à toi d'actionner, d'activement rebouger ton corps et de lui permettre, par exemple, aux zones dans lesquelles tu as des douleurs et des raideurs aujourd'hui, de petit à petit réduire ces systèmes d'alarme, ces stress, ces signaux que les capteurs sensoriels vont t'envoyer pour te dire attention, ici on est en zone rouge, on a mal. Si tu travailles progressivement, petit à petit, tu vas pouvoir réduire cette sensibilité à la douleur, cette sensibilité à la zone rouge, et progressivement ouvrir ton corps et de nouveau lui permettre de bouger, d'accord? D'acquérir de nouveau cette amplitude de mouvement et cette capacité à bouger. Le problème quand on parle de ce sujet-là, c'est que tout le monde veut se l'approprier pour son cas particulier. Oui, mais moi j'ai des blessures. Oui, mais moi j'ai eu 3 enfants. Oui, mais moi. Je le comprends bien. Moi, ce que je donne ici, c'est le fonctionnement, on va dire, de manière générale. Évidemment que si tu as 65 ans et que par rapport à quelqu'un qui en a 40, vous n'êtes pas resté sur cette terre à la même durée. Il y a quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience par rapport à l'autre. Donc évidemment, pendant ces 20 ans, il a eu le temps de se blesser, d'accumuler encore plus de stress, on va dire, négatif, de mauvaise posture, de douleur, etc. Et donc évidemment, pour lui, ça va être plus difficile. Mais moi, je te parle pas de niveau de difficulté, à quel point c'est facile ou pas de rétablir. Je te dis juste que c'est possible de se rétablir. Donc ça, c'est factuel. Et ça, je pense qu'il est important de se le mettre bien dans le crâne pour éviter justement, et ça va être la transition parfaite pour la seconde partie de la question, pour éviter, on va dire, cette faiblesse d'esprit de se dire j'en suis incapable. Non, au bout d'un moment, faut accepter que ton corps, il est capable de faire ça. Après, c'est dans ta tête, tu refuses l'idée, tu as une pensée qui te limite et tu refuses l'idée d'être capable de te mettre. Donc là, on le lit par exemple dans les mots que Sylvia a choisis. C'est, voilà, malgré mon âge, je ne peux pas faire ça. Il me faudrait une autre vie pour être capable de faire ça. Non, non. Moi, je suis très sensible à ce vocabulaire-là parce que voilà, ça a été engrainé en moi depuis très tôt. Il faut aimer la vie et la respecter et comprendre qu'on n'en a qu'une et vraiment avec beaucoup de ferveur, accepter cette idée que c'est un cadeau absolument incroyable. Moi, je ne supporte pas quand j'entends des gens dire « Ah, si j'avais eu une autre vie, j'aurais fait ça. » Ou bien « Ah, il faut 2, 3 vies pour faire ça. » Non! Il faut arrêter de penser ça parce que ce type de pensée, elle mène aussi à l'idée, le refus de vieillir et ça va toujours mener à la recherche de solutions de facilité. Si par exemple demain je te donne une pilule qui te donne 10 ans de plus, tu vas me dire, ah bah là c'est parfait, c'est la solution qu'il me fallait, je vais prendre la pilule comme ça j'aurai 10 années de plus. Ouais, mais si tu as déjà passé 60 années à rien faire sur cette terre, c'est pas parce que je t'en donne 10 que miraculeusement tu vas commencer à te motiver, à travailler, etc. et à exploiter tout ce que tu es censé exploiter. Non. C'est-à-dire que si dès maintenant ton esprit est dans un paradigme dans lequel tu vois l'expérience de vie que tu as comme un regret, comme quelque chose que tu n'as pas assez utilisé, quelque chose qui n'a pas été plein, et ben ça, même si tu as 20 ans, 100 ans de plus, garanti, tu seras toujours la même chose, tu vois, parce que tu n'as pas changé ta pensée, tu n'as pas changé l'intérieur, tu vois. Tu es ce que tu penses. Donc, si dès maintenant tu te dis, ah ben, il est trop tard pour moi, je suis irrécupérable, c'est impossible que je change de travail, de relation, ma relation à mon corps, mon alimentation, il est trop tard. Ben, si il est trop tard, malgré toutes les formations que tu vas pouvoir acheter chez moi ou chez d'autres, tous les stages, tous les bons conseils, tous les livres, si dans ta tête il y a déjà cette pensée-là, c'est kaput, tu vois, c'est fini. C'est déjà la fin du jeu. Donc, une fois qu'on a accepté la science et les données factuelles que le corps est capable de se régénérer, le corps est capable de faire ça, mieux vieillir, c'est possible. On peut, comme disait David dans un épisode, on peut ajouter des années à sa vie, on peut changer son alimentation, il y a des moyens de changer ses habitudes. On comprend plein de choses maintenant sur le corps, sur l'esprit, la manière dont on crée des mécanismes d'association, les biais cognitifs qu'on a. Bref, toutes ces choses-là, on les connaît. Tu vois, c'est le thème du biohacking. Tu peux faire tes recherches, tu vas savoir exactement comment toutes les parties de ton corps fonctionnent, ou en tout cas suffisamment pour te dire, mais en fait, le destin, il est entre mes mains. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, une fois que tu sais et que tu as accepté surtout l'idée que techniquement, c'est faisable, maintenant, il faut passer sur logistiquement. Il faut se dire, OK, ben, en fait, il faut que je change la manière dont je pense, sinon ça va jamais être faisable. Donc, si tu as 65 ans ou 70 ans, tu peux te remettre au sport et en quelques années faire des tractions. C'est possible. D'accord? Donc, voilà. Pour le deuxième embranchement de ta question, Sylvia. Et ça m'amène à un dernier point, comme je le disais au début, c'est l'idée, il faut arrêter de se comparer avec les gens sur Internet. C'est pas parce que t'as 60 ans et que tu vois une vidéo d'un mec de 60 ans qui fait des tractions à une main, tu dis, ah, vas-y, j'ai raté ma vie, j'aurais dû développer mon corps pour atteindre ce niveau-là. Non, non. Encore une fois, ici, il faut enfin, moi, c'est ce que je recommande, il faut mettre du contexte. Toi, ta vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à tes expériences, à ton conditionnement, à la manière dont les choix que tu as faits, il faut l'accepter. C'est pas une course avec les autres, ce qu'on fait ici. C'est pas un sprint, c'est pas qui exploite le mieux. Non, c'est qui exploite, tu vois, et qui n'exploite pas. C'est plus ça la vraie question, c'est sa relation à soi, en fait. Est-ce que je fais le max que je peux faire? Est-ce que je suis la meilleure version que je puisse être? Est-ce que je m'amuse autant que j'ai envie de m'amuser? Est-ce que j'ai autant de joie que j'ai envie d'en avoir? Mais s'il y a quelqu'un qui a 70 ans et qui fait des choses incroyables avec son corps ou avec son esprit, bah lui, il a eu une autre vie, en fait. Il a eu une autre expérience de vie. Il faut pas l'envier, il faut pas la rejeter, il faut en rien faire, en fait. C'est sa vie à lui, quoi. Il faut se détacher de ça. Et en fait, enfin, moi, je dis il faut, c'est parce que c'est vraiment en moi, donc. Mais voilà, moi c'est ce que je recommande pour vivre une vie un peu plus heureuse. Et justement, une fois qu'on arrête de se comparer, c'est pas parce qu'Ido Portal, il a, je sais pas, moi, 45 ans, qu'il fait des trucs incroyables. Ouais, mais le mec, il a commencé le sport, il avait 10 ans. Si toi, t'es même pas dans le même paradigme, déjà, oublie. Mais même dans le cas où tu as commencé le sport à 10 ans, il y a eu 1 milliard de choses différentes dans vos vies, que ce soit les blessures, les relations, le pays où vous êtes né. Il y a 1 milliard, l'alimentation, il y a plein de choses. Donc, même si tu compares l'âge, c'est-à-dire que c'est cette idée de, par exemple, tu prends deux enfants qui ont le même âge. Deux enfants en bas âge, 3 à 4 ans, tu les mets dans les mêmes sports, les mêmes coachs, les mêmes entraînements, mais garantis, ils vont avoir deux parcours de vie totalement différents. Il y en a un qui va être, je sais pas moi, numéro 1 aux Jeux Olympiques, et l'autre, il va être absolument nul, tu vois, enfin, j'en sais rien. Mais il peut tout se passer, d'accord? Donc, même si tu stimules les gens de la même manière, on n'est pas des robots. C'est pas garanti. Il n'y a aucune garantie que tu vas avoir les mêmes résultats. Donc, regarder quelqu'un et se dire, ah, moi aussi, j'aurais dû commencer à l'âge de 15 ans, ben non, en fait, c'est illogique. Même si tu as commencé à l'âge de 15 ans, ça se trouve à 16 ans, tu aurais trouvé une autre passion, tu aurais fait du dessin et puis boum, c'est terminé. Donc toutes ces idées de se comparer, de regarder, de voir quelqu'un qui a son âge ou plus et qui fait déjà des choses incroyables, c'est sa vie, c'est son expérience de vie. Tu connais pas toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans sa vie et toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans sa vie. Donc lui, il a le corps qu'il a, il a la mentalité qu'il a parce qu'il a eu d'autres expériences. Et donc le mieux à faire, c'est de trouver de l'inspiration là-dedans pour les appliquer à soi, mais pas pour essayer de vivre la vie d'une autre personne, mais pour essayer de vivre sa vie un peu mieux, tout simplement. Voilà. Pour conclure, on passe à la troisième question. Je regarde si tout se passe bien et qu'Internet ne m'a pas lâché. Mais normalement, c'est espérance de vie. Merci, Judy. C'était le mot que je cherchais. C'est pas si compliqué en plus comme mot, hein, mais je t'ai perdu. Alors, troisième question. Bonjour Slim, je ne pourrai malheureusement pas être présent pour ce live, mais je regarderai plus tard. Tes podcasts sont vraiment géniaux et très inspirants. Je suis déjà fan. Non, je me suis déjà fourni dans ta bibliothèque et c'est top. Oui, d'ailleurs, la bibliothèque de livres. N'hésitez pas, hein. Je rajoute tous les livres que les invités conseillent. Et là, récemment, même les livres qu'ils conseillent en plein milieu du podcast, j'essaye de prendre des notes pour avoir une librairie encore plus complète. Et d'ailleurs, à ce sujet, avant que j'aborde la troisième question, je vais essayer aussi d'améliorer cette librairie en essayant de compartimenter les différents livres, parce qu'il y en a qui sont sur l'entraînement physique, sur l'entraînement mental, sur la spiritualité, d'autres sur l'entrepreneuriat. Donc j'essaye de tout séparer comme ça. Si vous allez sur la bibliothèque, vous vous dites, OK, là, je suis à une phase dans ma vie dans laquelle j'ai besoin peut-être de créer un projet. Essayons de voir s'il n'y a pas eu des entrepreneurs dans ce podcast, et il y en a plein, voilà, pour essayer de trouver leurs bons conseils et d'utiliser les mêmes outils que eux ont utilisés pour améliorer les différents domaines de leur vie. On retourne à la troisième question. Petite question concernant l'entraînement. Crois-tu au surentraînement? Et si celui-ci bien... Attends, excusez-moi. Crois-tu au surentraînement si celui-ci est bien construit et comment lutter contre? D'accord? Même si la question n'est pas sélectionnée, je prendrai quand même grand plaisir à regarder ce live. Bonne journée, coach Anthony. Anthony! Là aussi, je vais essayer de segmenter la question. Déjà, le crois-tu? Mettons les choses au clair. Oui, c'est une réalité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a du surentraînement. D'accord? C'est très simple. C'est tu t'entraînes trop, tu fatigues, tu pousses la machine trop loin, pendant trop longtemps, tu te donnes pas assez de repos, il n'y a pas d'adaptation, tu es en surentraînement. D'accord? Il y a des déséquilibres hormonaux, une fatigue émotionnelle, mentale qui arrive et un gros potentiel de risque de blessure. Donc ça, il faut enlever le crois-tu. Au bout d'un moment, il y a le surentraînement et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Comment lutter contre? Ça, c'est la vraie question. Alors, encore une fois, moi, ce que j'essaye de partager ici, il n'y a pas de réponse unique, hein, comme d'habitude, et en particulier avec l'entraînement physique, il faut comprendre surtout la notion de surentraînement. Il faut comprendre que dans sa pratique physique, on ne peut pas faire l'économie de toutes les autres variables. C'est pas parce que tu vas dans la salle et que tu t'entraînes une heure que tu es dans une bulle et que tout ce qu'il y a autour de toi n'a aucun impact sur toi. C'est totalement faux. Le moment où tu rentres dans la salle, tu viens avec un bagage, tu viens avec tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui s'est passé dans la semaine, dans le mois, dans ta vie. Tu viens avec un énorme bagage émotionnel, tu viens également avec ton niveau de repos que tu as eu ou non, du sommeil de la veille, de ce que tu as mangé juste avant l'entraînement, de ton hydratation, de ton état mental du moment. Tu viens avec tout ça. Donc, c'est pas que c'est impossible de lutter contre le surentraînement, mais c'est que c'est le travail quotidien, en fait, de tous les jours, de lutter de manière générale contre le stress, contre l'anxiété, contre ces choses-là. Et moi, j'aime pas vraiment la partie, enfin, j'aime pas vraiment. Je ne dirais pas qu'il s'agisse de lutter contre, mais je dirais plutôt qu'il s'agisse de travailler pour. Je m'oriente vers quelque chose de vertueux, de vertical et d'ascendant et de positif. Moi, je veux pas lutter contre rien du tout. Parce que si tu luttes contre des choses, tu les mets dans ta réalité et tu passes ton temps à obséder à propos de ces choses-là, tu vois. Donc tu vas dire, ah, il faut que je lutte contre la fatigue, il faut que je dorme plus. Ouais, mais en fait, en pensant constamment comme ça, ton sommeil va être jamais réparateur. Tu vas constamment presque attirer ce truc-là, tu vois. D'accord? Parce que tu es constamment en train de l'obséder. Donc moi, je dirais qu'une reformulation utile, c'est de se dire, comment j'améliore en fait ces choses-là et comment justement je travaille pour ne pas être en surentraînement, pour ne pas être fatigué, donc pour avoir plein d'énergie, pour avoir des entraînements optimaux, pour avoir des performances améliorées, d'accord? Donc tout ce vocabulaire-là, il est extrêmement important et c'est ça aussi qui t'oriente vers une résolution de problèmes beaucoup plus efficace, d'accord? Si tu passes ton temps à essayer de fuir des ennemis, c'est pas pareil que si tu passes ton temps à justement chasser un idéal. Donc tu vas vers l'avant et tu vas être beaucoup plus à même de faire le tri rapidement parce que tu t'es dit non mais moi je veux aller vers là en fait, d'accord? Je veux aller vers quelque chose qui me propulse vers le haut et vers l'avant, donc voilà, tout ce que je vais faire pour mon entraînement, ça va être voilà, regarder mon alimentation, regarder mon sommeil, regarder mon hydratation, regarder mon niveau de stress émotionnel et mental, etc. Donc voilà, ça c'est on va dire les quatre gros points qui vont de toute façon influencer ton entraînement. Si là, ton entraînement est bien construit, si tu as un protocole bien établi, ce qu'il faut aussi comprendre avec les protocoles, c'est que même si tu as un protocole qui te dit voilà, pendant 12 semaines, voilà ce qui va se passer du lundi au vendredi pour toi. Même ce truc-là, il faut partir du postulat que c'est une ligne directrice. C'est pas quelque chose à suivre à la lettre. Parce que c'est impossible. Si ça se trouve dans 3 semaines, il y a la mort de ton chien, ça t'attriste. L'entraînement que j'avais prévu le jeudi, un gros entraînement dur de préparation physique, tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu es triste, tu as perdu ton chien. Tu vois? Donc, un exemple un peu triste, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'un protocole d'entraînement étalé sur 12 semaines ou sur 6 mois, etc., c'est une vision globale, c'est un plan d'action. Mais c'est le futur, on n'en sait rien. Ce qu'il faut te dire, c'est te dire, enfin, ce qu'il faut dire, c'est, OK, tu te lèves le matin, tu as ton protocole, donc ça, c'est utile parce que ça t'enlève le stress de ne pas savoir quoi faire et cette idée de, ah, j'avance un peu au hasard. Donc ça aussi, c'est très, très, très dangereux. Justement, si tu veux améliorer tes performances, ta santé et tes mouvements, parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas. Donc, une fois que tu as ça, c'est un super outil, mais tu le prends de manière légère. Si tu dis, voilà, ça, c'est mon protocole du moment, je me donne 3 mois pour, je sais pas moi, améliorer mes tractions, voilà ce que je vais faire. Mais le jour J, au moment où tu te lèves, tu dis, putain, attends, la veille, je suis sorti, j'ai célébré l'anniversaire d'un ami, je ne suis pas couché très tôt, donc le matin, je me lève, je suis en train de bâiller alors que je suis même pas à la salle, wow! C'est peut-être pas le moment de faire l'entraînement à 7 heures du matin comme convenu. Peut-être plus tard ou peut-être l'enlever. Et donc après, tu adaptes. Et je pense que c'est tous ces petits rappels-là, ces rappels en conscience, en fait, qui te permettent d'éviter le surentraînement et voilà, et de pas tomber, en fait, dans les travers qui vont peut-être te mener à des blessures. C'est un travail quotidien, en fait. C'est comme pour tout, hein. C'est, tu te lèves le matin, tu te dis, voilà, si je veux être efficace dans mon entraînement physique, de la même manière, si je veux être efficace au travail, si je veux être efficace avec mes enfants, et en fait, il faut que je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tous les jours, on s'est renouvelé. Tous les jours, on est une nouvelle personne, physiquement. On est totalement nouveau, une nouvelle cellule, etc. Les pensées également, on peut les renouveler et on peut les adapter. Et il est important, je pense, de dédier un peu de temps, que ce soit le matin avec ta méditation matinale, ou peu importe, ou ton journaling matinal. Comment on dit, je ne sais plus, prise de notes matinale. De regarder, en fait, ton état. Aujourd'hui, physiquement, mentalement, émotionnellement, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu traînes de la veille, de la toxicité, tu es encore dans des conversations avec des gens? C'est ça qu'il faut lâcher pour aborder l'entraînement et ne pas hésiter à le modifier et à l'adapter. Et après, peut-être 2 jours après, revenir à la structure que tu t'étais trouvé ou organisé, créé au tout début. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est ça les protocoles et c'est comme ça qu'on évite au maximum le surentraînement. C'est une adaptation quotidienne. Voilà, c'est ça le secret, on va dire, des athlètes. Quand il y a un gars qui dit, voilà, j'ai eu une préparation physique de 3 mois pour ce combat, ouais, mais en fait, dans les 3 mois, c'était comme ça, hein. C'était une vague, c'était pas une courbe croissante parfaite, et j'arrive le jour du combat au pic de ma performance. Pas du tout. On l'a vu même le week-end dernier avec Conor McGregor. C'est t'arrives au mieux que t'aurais pu être. C'est tout ce que tu fais, mais c'est pas ascendant et c'est pas le maximum. Si ça se trouve, le max de ta performance, tu l'as déjà eu, et que tu arrives le jour du combat, ou peu importe, avec déjà des blessures, déjà des fractures, et tu essaies d'ajuster, en fait. Et c'est ça l'entraînement physique, c'est constamment ajuster, c'est je m'éloigne un peu du point où je me sens bien, je prends un petit danger, je reviens, tu vois. Et s'il y a trop de dangers, trop de choses comme ça, il faut que je réajuste la course, en fait. D'accord? Mais c'est jamais parfaitement aligné, je mange ça tous les jours, je fais ça, et tout se passe bien. Ça peut arriver, hein, mais ça peut arriver que quelques jours. C'est intenable. Tu as toujours un truc qui se passe. C'est-à-dire que si tu dis, ah, oh, j'ai mangé exactement ce que j'avais dit que j'allais manger, je me suis entraîné exactement comme j'avais dit que j'allais m'entraîner. Ouais, mais 3 jours après, tu as un message de quelqu'un qui t'énerve. La séance suivante, tu pousses trop lourd, trop vite parce que émotionnellement, t'es pas dedans. Et ben voilà, tu te blesses aussi. C'est vraiment comme ça qu'il faut, en tout cas, moi, je pense, hein, qu'il est utile, de gérer l'entraînement physique pour pas tomber dans les surentraînements. Voilà pour la réponse, Anthony. Et là, on arrive avec les grosses, grosses questions. Hein. Et mais c'est mes amis de Green Motion qui sont là. Magnifique. Bienvenue, Mélissa, Ben. La quatrième question. Je suis de ouf. En abordant tes expériences de pratiques alimentaires, je me suis fait la réflexion suivante. Aujourd'hui, les pratiques alimentaires à la mode clivent et se communautarisent parfois. Et se communautarisent, parfois, oui. Comme dans les sports. Chacun pense que sa pratique est la meilleure, qu'il a raison, histoire de se rassurer. Dans ce contexte, malgré ta grande liberté, comment fais-tu pour aborder ce sujet avec certains de tes camarades, communautés ou ton entourage? Est-ce que les gens ont une tolérance à cet égard ou y a-t-il de vives réactions, Jean? C'est Jean-Yves. Très très bonne question. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai pu aborder par le passé, mais peut-être pas dans ce contexte-là, dans le contexte des questions sur l'alimentation. Mais en fait, c'est comme pour tout. Dépendant de la phase de la vie dans laquelle tu es et à quel moment tu as découvert un outil qui est amélioratif pour toi, si c'est très récemment, on a tous cette tendance au tout début à se dire « j'ai trouvé quelque chose qui marche pour moi, J'ai envie de le partager, j'ai envie de le promouvoir, presque de le prêcher. À ce moment-là, il faut au maximum essayer de se rendre compte de ça pour l'éviter. Pourquoi? Parce que c'est pas ton objectif de vie. On n'est pas censé arriver et dire voilà, j'ai trouvé mon truc et boum, c'est ça qu'il faut que tu fasses toi aussi. Non, si ça trouve un truc pour toi, tant mieux. D'accord? Donc ça, c'est la phase au début. Et après, au bout d'un moment, généralement, après quelques années, tu as cette maturité vis-à-vis de ce que tu as déjà fait. Si tu es quelqu'un d'honnête et d'authentique et de sincère dans ta démarche, et ben tu lâches prise naturellement et donc tu arrêtes de prêcher et tu vis ta vie. D'accord? Ça, ce petit cheminement-là, pour moi, c'est le cheminement vers l'exemplarité. C'est que tu arrêtes de vouloir convaincre les gens et tu dis, ben moi, je vais mener par l'exemple. Si j'ai trouvé quelque chose qui marche bien pour moi, qui me fait me sentir vivant, je vais juste le vivre en fait, je vais vivre mon expérience et c'est tout. Si les gens autour de moi me voient plus heureux, plus épanoui, plus en joie, eh ben ils vont naturellement trouver de l'inspiration là-dedans parce qu'en fait ton énergie va être communicatrice et va pouvoir les influencer. Et je pense que c'est un peu le parcours de l'enseignant ou de la personne qui veut être plus exemplaire. On a un podcast là-dessus avec le bon Julien de Purple Bell Kitchen. Tu pourras regarder ça également. Mais voilà, ça c'est le surtout avec l'alimentation. Donc c'est quelque chose qui divise parce que c'est l'outil sur lequel on a le plus de gens en fait qui sont dedans parce que tout le monde mange en fait. Donc mais pas tout le monde s'entraîne. C'est-à-dire que tu peux avoir des débats qui vont être moins houleux et moins clivants si tu parles de l'entraînement physique avec des gens qui s'entraînent pas. Tu vois, si tu es un athlète et que tu parles avec des amis qui s'entraînent pas, même s'ils sont pas d'accord, c'est bon en fait, tu t'en fous de leur avis parce que ils sont pas pertinents dans la conversation. Mais tout le monde mange. Donc tout le monde pense être pertinent sur l'alimentation. Et c'est ça le vrai problème. C'est que non, en fait. Il y a des gens qui sont un peu plus experts que nous. Peut-être des gens qui passent leur temps à explorer sur l'alimentation. Et même dans le cas où ils sont un peu plus experts et ils ont plus de connaissances, etc., on n'est pas tous prêts aussi à recevoir les informations de la même manière. C'est-à-dire que les débats sur ce qui est le meilleur régime alimentaire pour l'homme, il n'aura jamais de fin parce que l'homme, ça n'existe pas en fait au point de vue, enfin, si on parle que de la relation à l'alimentation, mais même par exemple avec le mouvement, c'est qu'on est tous différents. Il y a peut-être des principes, moi je pense qu'il y a des principes auxquels on est tous soumis parce on fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que voilà, on a des caractéristiques qui nous permettent d'être performant, d'être plus en vitalité, de régénérer le corps quand on jeûne, par exemple. Tu vois? Après, si tu parles de ce qui est le plus utile pour la performance, pour la prise de masse, pour l'équilibre hormonal, etc., ça va être aussi, il y aura une grosse influence qui va être génétique. Donc, si tu abordes un sujet comme l'alimentation avec des amis ou avec des proches, en fait, c'est à toi de définir déjà de base quel est ton objectif dans les conversations, parce qu'on n'aborde pas tous les conversations de la même manière. Il y a des gens, en fait, ils veulent simplement être écoutés. Il y a des gens, ils veulent convaincre, ils veulent persuader. Il y a des gens qui simplement veulent partager une expérience. Et donc, en fait, c'est plutôt la relation à soi. Si toi, tu es en confiance et que tu as trouvé quelque chose qui te correspond, tu as envie de le partager à des proches, mais que tu vois objectivement que ces proches sont pas prêts à recevoir l'information, lâche prise, ça sert à rien, en fait, tu vois. Et donc voilà, moi c'est un peu de cette manière que j'aborde l'alimentation ou les sujets comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en privé, je parle beaucoup, enfin là aussi, mais c'est des sujets, des conversations qui reviennent beaucoup et moi je les aborde avec toute la partie technique, scientifique, les recherches, etc. Parce que j'adore faire ça, mais je le fais pas avec tout le monde, je le fais avec des amis qui sont dedans en fait, qui sont dans cette idée d'exploiter les choses. Donc par exemple, bah voilà, les gens que tu vas écouter dans le podcast, qui pour la plupart sont mes amis dans ma vraie vie, et bah voilà, on parle de ça, mais vraiment en détail. On peut passer 5 heures à parler, alors l'influence, je sais pas moi, de manger, je sais pas moi, du foie ou du cœur d'un animal, qu'est-ce que ça fait? Et tout le monde un peu balance la science, etc. Mais si par exemple je parle avec ma maman, et qu'elle me dit, voilà, je sais pas, ça fait un an que j'ai arrêté la viande et tout se passe bien dans ma vie et que j'ai moins mal là, j'ai moins mal là, je perds du poids. Bah tant mieux en fait, tu vois. Moi, je mange ce que je mange et on n'a pas le même âge, on n'a pas le même objectif dans la vie. Donc chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Après, voilà, comme je te disais, ce qui est utile, moi, je pense, dans ces conversations-là, surtout si toi, tu en as fait l'expérience, c'est de partager les grands principes. les choses qui marchent, pas qui marchent pour tout le monde, mais les choses en fait qui font partie du bon sens, tu vois. Donc arrêter le sucre, le jeûne, l'hydratation, que l'alimentation c'est aussi relié avec ton sommeil, etc. Essayer d'être un peu plus honnête avec son état de santé, c'est-à-dire faire une analyse, voir tes hormones, tu vois, voir ton sang. Mais voilà, il y aura toujours des recherches qui vont valider les points des gens, parce que les gens ils vont toujours chercher les recherches qui valident ce qu'ils veulent penser, en fait, de base, tu vois, c'est un des biais cognitifs qu'on a. Donc voilà, moi, c'est un peu de la même manière que, c'est de cette manière-là, pardon, que je regarde les conversations sur l'alimentation. Donc pour la fin de ta question sur la tolérance à cet égard, je m'en fous, en fait, je m'en moque. C'est-à-dire que les gens soient tolérants ou pas, mes proches ou mes amis soient tolérants ou pas, ou les gens avec qui je discute, c'est pas ma vie, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est-à-dire s'il y a des gens qui entendent un discours et qui ont une aversion à ce discours et qui sont très en colère et qui se sentent atteints, c'est leur expérience de vie, tu vois. C'est pas à moi, tu vois. Moi, j'attends pas de la tolérance des gens, j'attends rien des gens. Je partage ce que j'ai envie de partager. Les gens qui sont à une phase de la vie, de leur vie, dans laquelle ce discours, ces pensées-là font sens, c'est ces gens-là que je touche. Ceux pour qui ça ne fait pas sens, ce sont les gens que je ne touche pas. Point barre. Mais je ne cherche pas à toucher d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme pour tout, en fait. C'est-à-dire que si tu vas à un cours de piano et que l'enfant, il aime le piano ou il est intéressé, ou même s'il découvre, il a une petite sensibilité pour ça, il va recevoir l'information. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Enfin, faut pas essayer de le convaincre ou pas essayer de le changer. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut abandonner tous les gens qui sont objectivement en mauvaise santé et leur dire, oh, ben voilà, tant pis pour toi, tu voulais pas écouter. Mais, in fine, si. Non, bien sûr que non, mais voilà. Si on partage des choses et que le récepteur ne réagit pas, bon, bah c'est tant pis, tu vois. Encore une fois, le meilleur exemple, enfin, pardon, la meilleure manière de le faire, c'est l'exemplarité. Donc voilà, si toi, les personnes, ce sont des personnes que tu aimes énormément et que tu as vraiment envie de les aider, prends les choses calmement, analyse. Déjà, toi, ton intention là-dedans, si tu viens directement avec une idée, je vais prouver que tu as tort, déjà, on n'est pas bon, tu vois. Tu vois, donc c'est ta faute, en fait, si tu reçois cette intolérance. C'est parce que tu arrives aussi avec une intention comme ça. Donc, généralement, dans la communication avec les gens, peu importe, hein, que ce soit dans une relation ou sur l'alimentation, peu importe, c'est toujours ça, en fait. C'est nos intentions qui vont déterminer une grosse partie de l'échange qu'on va avoir. Et après, comme je te dis, dans un second temps, c'est le réceptacle, en fait, si la personne, elle est prête à accueillir ça ou non. Donc, voilà. Vis ta vie, mange ce que tu as envie de manger, vois si ça te fait du bien, et après essaye de montrer que tout va bien. Mais voilà, il y a des gens, tu pourras jamais les convaincre, et c'est même pas l'objectif de nos vies. Voilà. Dernière question, on y arrive. C'est la grosse question également de Jean-Yves, hein, qui m'avait posé plusieurs questions, j'en ai pris que deux. À travers ton mode de vie, ce qui te caractérise est la liberté. Attends, je vais boire, parce que j'en peux plus. Donc, à travers ton mode de vie, ce qui te caractérise est la liberté, entreprendre, voyager, mover, penser, pratiquer librement tes passions. Et en bon stoïcien, comment vas-tu aborder la récente décision française d'une quasi-obligation de se faire vacciner contre le Covid? Cette question fait polémique ici, selon les convictions, et je me disais qu'après que tu te sois fâché avec Erta, la BNP, Microsoft Excel, le monde des yogis, vegan, Big Pharma serait une sorte d'étape de progression. Si cette question te pose problème, tu peux toujours appeler en visio Nicolas Mercadier, qui va trancher le débat en un coup de sabre direct. Je pense que vous pouvez faire mieux et il y a d'autres levels à atteindre avec l'industrie de l'armement, celle du pétrole et le Graal, les mafias. Jean-Yves, une bien belle question de quelqu'un qui est bien énervé contre ceux qui nous dirigent. Chacun, évidemment, va pouvoir recevoir cette touche d'humour comme il le veut. Alors, un, je suis fâché avec personne, ni Erta, ni les vegans, ni Big Pharma, ni Microsoft Excel. On me donne simplement une opinion. Pour celles et ceux qui savent pas à quoi on fait référence, c'est l'épisode 28 avec Nicolas Mercadier, où on pique un peu, voilà, mais avec amour et bienveillance, comme à chaque fois, hein. Comme je le disais précédemment, si la personne n'est pas prête à recevoir ça, on ne peut rien y faire. Mais la question, elle est intéressante. Aborder la récente décision française et l'obligation de se faire vacciner contre le Covid. Encore une fois, là, je tiens à prendre quelques minutes pour préciser ça. De la même manière avec les autres questions et avec les autres foires aux questions, avec tout le contenu que je partage, je le répète à chaque fois, mais je ne me pose pas en figure d'autorité. J'en sais pas plus que vous sur tous ces sujets-là. Je partage simplement quelque chose que moi j'ai expérimenté, le mouvement, etc. Voilà. Qui veut bien prendre ça, le prend. Celui qui ne veut pas, il le prend pas. Là, de la même manière, Je tenais à prendre cette question parce que je me suis dit, évidemment, moi, dans mon cercle plus privé, je parle beaucoup de ces choses-là parce que ça a une importance pour moi, vu qu'il s'agit de la santé, de l'intégrité physique et même plus de l'humain. Et donc voilà, moi, passionné de santé holistique, de vie un peu plus à l'état de nature et d'exploiter tout son potentiel, il est naturel que je ne puisse pas esquiver cette question. Et je me suis également dit que, voilà, même si moi, ce n'est pas mon objectif avec ce que je partage en ligne, et j'aime bien séparer le personnel du privé, les convictions politiques du reste, je me suis dit que voilà, au bout d'un moment aussi, il faut oser parler, il faut aussi aborder ces sujets-là parce qu'ils nous touchent tous. Et on peut pas faire l'économie d'une voie positive supplémentaire. Voilà, c'est un peu la manière dont je le vois. Donc, je me suis dit, allez, il fallait que je prenne le temps de parler de ce qui se passe maintenant. Et quand je dis parler, c'est simplement donner une opinion supplémentaire. Moi, je ne peux pas dire aux gens comment vivre et comment faire les choses. De la même manière qu'avec mes formations, je ne vous apprends pas à bouger comme moi et à faire ce que je fais, mais j'enseigne des outils pour que les gens puissent les adapter et les aborder. Donc, en ce sens, ce que je vais dire là, ou même ce que je dis hein, depuis le début, ce n'est pas des commandements, ce n'est pas des règles à appliquer, c'est simplement une voie supplémentaire pour vous permettre à vous d'avoir un point de vue différent, de comparer les différents points de vue auxquels vous êtes sensible, et après de vous concocter votre mixture comme à chaque fois. Moi, je m'étais dit que ça peut être cool d'avoir une voie supplémentaire qui va essayer d'orienter vers un peu plus de positivité. La décision, elle est ce qu'elle est. On a bien vu que le président à une volonté de tous nous vacciner et que ça fait partie d'un plan général. Hein, c'est pas si t'es surpris par la décision, il est là le vrai problème. Il faut se réveiller et comprendre que tout ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, moi je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Est-ce qu'il faut se vacciner ou est-ce qu'il faut pas se vacciner? Et c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Si même il y a une utilité au vaccin ou pas au vaccin. Moi, ce dont j'ai envie de parler avec cette décision-là, c'est de deux choses. Un, avec tout ce que je partage sur le mouvement et la mobilité, vous comprenez bien que moi, les outils et que ma mentalité et que ma philosophie, elle est sur l'autonomie. L'autonomie physique, grâce au mouvement. Moi, je ne veux pas aller chez le médecin, je ne veux pas avoir des kinés, des ostéos, je ne veux pas de médicaments, je ne veux rien. Je veux me gérer tout seul comme je suis censé me gérer tout seul. Comme tous les animaux sur Terre, tous les êtres vivants sur Terre, chacun se gère tout seul. Il n'y a pas un chien qui masse un autre chien, il n'y a pas un lion qui va acheter de la nourriture pour un autre lion. Non, nous, on est censé se gérer tout seul. Moi, je veux reprendre le contrôle sur mon autonomie physique, et protéger, préserver mon intégrité. D'accord? C'est pour ça que je fais mes recherches, que je m'amuse, que je cherche différentes choses, que je change des protocoles, que je m'entraîne différemment, que je voyage. Parce que j'ai cette curiosité, cette volonté de me gérer mieux, d'apprendre, de découvrir le manuel humain de comment se gérer soi. Après, le fait de le partager, c'est parce que j'aime aussi ça, ça me procure de la joie. Mais c'est tout. Donc là, pareil avec le vaccin, etc. Si vous pensez, avec votre background, vos connaissances, que ça a une utilité pour vous, chacun est libre de faire ce qu'il veut et personne ne devrait vous dire si c'est bien ou mal. Mais de la même manière, personne ne devrait vous forcer également à faire quelque chose. Tu vois, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se faire vacciner et qui dit ouais, c'est bien pour la santé ou je sais pas quoi, ça protège les gens, ça c'est ta vérité à toi, tu vois. Tu ne peux pas me forcer à le faire. Et personne ne peut nous forcer à le faire, tu vois. Mais de la même manière, personne ne peut nous forcer à ne pas le faire. C'est chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, pareil ici, je n'encourage personne à ne pas le faire, etc. Moi, pour rester cohérent avec tout ce que je partage, j'encourage les gens à essayer au maximum de préserver leur intégrité physique et de reprendre le contrôle sur leur santé de manière générale. En ce sens, la vaccination, les médicaments, l'utilisation d'outils extérieurs, je ne peux pas la promouvoir, ce serait incohérent. Mais après, ça, c'est moi et mes valeurs. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à quelqu'un qui a une maladie très grave d'arrêter les médicaments. Ben non, tu as besoin de médicaments, c'est ton expérience de vie, c'est ton paradigme, prends les médicaments. Je ne vais pas dire, ah ben non, c'est mal, tu devrais préserver ton intégrité, l'animal humain devrait vivre comme ça, si tu es blessé, ben, tu te démerdes, tu te régénères tout seul, tu aurais dû penser à l'avance. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc là, avec la décision, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on évolue sur différents plans. Il y a le plan sur la santé de chaque individu. Là, vous avez mon avis, c'est préserve ta santé tout seul. Tu vois, donc essaye de faire en sorte de voilà, modifier ton alimentation, ton entraînement, ton sommeil, ton hydratation, ta méditation, reconnecte avec toi-même pour justement être capable de mieux aborder toutes les situations de la vie, les stress, les différents stress, et mieux te gérer. Donc ça, c'est mon partage, et c'est ce que je fais avec mon académie de mouvement en ligne. C'est ma mission de vie, c'est de partager cette vision-là, pour chaque individu. Après, là, il ne s'agit pas que de nous, personnellement, chaque individu, il s'agit du fonctionnement de tout le pays. Et donc avec la vaccination, c'est ça en vrai le vrai débat, c'est que si on décide de rien faire, c'est le début de, enfin c'est le début, non, ça a déjà commencé, tu vois, il y a des années. Mais si on décide de rien faire, en fait, on abandonne tous collectivement ces prises de décision-là sur notre intégrité, notre santé physique. Donc moi, c'est un peu ça que je dirais sur aborder la décision française, c'est que ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale, parce qu'on parle beaucoup de prise de conscience, et on entend beaucoup ce genre de mots, ah, il y a une prise de conscience générale, les gens font attention à leur bouffe, à leur mindset, etc. Oui, mais non. Parce que si au final, dans tout le pays, on est incapable de choisir si on a envie d'aller au restaurant, au café, de faire du sport, il n'y a pas vraiment de prise de conscience, tu vois, on est justement, on s'abandonne en fait, on abandonne de plus en plus nos différentes libertés, et on met en danger cette intégrité et cette liberté de choisir, tu vois, que ce soit pour le vaccin ou pour que d'autres choses, tu vois, si jamais il nous dit, je sais pas, moi, les gens qui nous dirigent nous disent d'autres règles qui n'ont rien à voir avec la santé physique, c'est le même principe. En termes de principe, on devrait tous être libres de faire ce qu'on a envie de faire et de choisir, en tout cas, tu vois, dans le cadre, évidemment, dans le respect des règles qu'on a décidées ensemble pour vivre mieux ensemble. Mais voilà, tu vois, tu es libre de quitter ton taf et de créer ton projet, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je fais. Tu es libre de voyager, tu vois. Tu es libre de gérer ta santé comme tu as envie de la gérer. Tu es libre de t'entraîner comme tu as envie de t'entraîner, de manger comme tu as envie de manger. Donc, voilà. De ce principe-là, moi, c'est ça que j'inviterais les gens à. C'est le détail vers lequel il faut se concentrer. C'est qu'est-ce que j'abandonne ici? D'accord? Et c'est ça qui est très, très dangereux et très sournois. C'est de se dire, en fait, par convenience, par facilité, par fainéantise intellectuelle, par lâcheté pour certains, ou par simplement, ah ben j'ai pas le choix, je suis obligé, tu vois, par abandon, par fatalité, en fait, on est en train d'ôter une énorme partie, voire la seule partie de l'expérience de vie humaine sur Terre, qui est la liberté de choisir. Donc voilà, cette décision-là, moi, elle ne me surprend pas, évidemment, hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France il y a des années. Et le voyage, c'est aussi pour ça, en fait. Moi, c'est que je ne supporte pas, en fait, qu'on me dise quoi faire. Enfin, je peux pas travailler pour les autres, je peux pas, tu vois. Et après, voilà, je suis français aussi, et j'ai aussi envie de rentrer, j'ai aussi envie de faire des choses, j'ai aussi envie d'apporter ma pierre. Et je comprends l'importance d'être physiquement, de se rassembler, de sortir et de faire des choses ensemble. Parce que c'est beaucoup plus puissant qu'à travers l'outil informatique. Donc voilà. Moi, par cohérence, par stoïcisme, comme tu le mentionnes, Jean-Yves, cette décision, elle ne me surprend pas. Je la prends comme elle est. Voilà. J'invite chacun à se responsabiliser et regarder, en fait, ce qu'ils sont prêts à abandonner. C'est ça qui est dangereux. Donc, si vous avez l'occasion de participer et de faire entendre votre voix, je pense qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que moi, j'avais aussi envie de prendre cette question, faire entendre ma voix, qui est que, bah oui, ça, ce sont des vraies choses qui sont graves. Et je pense qu'on ne peut pas s'abandonner à la fatalité, à la facilité, à la fainéantise. Encore une fois, tout ça n'a rien à voir avec le débat sur la santé réelle, ni même qui nous force à faire ça, dans quel objectif. Moi, je ne débat pas du tout là-dessus. Je te parle simplement du principe de, hey, tu as une liberté de choisir. Et là, en faisant ça, on te l'ôte. Et donc, c'est sur ça que moi, je mettrai l'accent. Le reste, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. De dire, oui, mais qui nous manipule, qui nous fait ça, pour qui ils font ça? Ouais, mais t'as pas le contrôle là-dessus. Par contre, là, tu as le contrôle. Tu as le contrôle de choisir de, OK, en faisant ça, faut que je sois honnête. Si, par exemple, je décide d'accepter les règles, si tu viens et tu justifies ça en disant, oui, mais regarde, moi, je travaille, mon patron m'a dit que si je faisais pas ça, eh ben, je pourrais pas travailler, j'ai 3 enfants à charge. Non, mais je comprends tout ça. Je comprends absolument tout ça. Je dis pas que c'est une décision qui est facile. Je dis juste que c'est une décision, comme toutes les décisions en vrai, mais sur lesquelles il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire qu'une fois que tu abandonnes ta liberté de préserver ton intégrité physique et en tout cas de la gérer, tu t'as mis le pied à l'étrier, c'est terminé. Peu importe ce que tu diras par la suite, tu as abandonné une partie de ta liberté. Tu vois, donc, après, peu importe. Oui, tu as eu des pressions, les pressions sociales, etc. Déjà, un patron qui me dit quoi faire, non, tu vois, document, mon ami. Mais peu importe la manière, c'est comme les gens qui vont te dire, par exemple, sur l'alimentation, on y revient, c'est-à-dire, oui, mais moi j'ai mal mangé parce que mes parents, en fait, ils n'étaient pas éduqués sur l'alimentation. Ouais, mais je m'en fous, en fait, au bout d'un moment, c'est ça, se responsabiliser, et c'est ça, justement, prendre des décisions pour soi. C'est, tu as le choix de choisir quoi manger, ben, choisis, en conséquence. Mais me dis pas que c'est parce que justement tu as subi une pression, je sais pas moi, familiale ou une pression sociétale ou peu importe. Donc là, c'est de la même manière. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais voilà, il y a bien des gens qui ont pris des décisions bien avant pour s'y préparer. Il y a bien des gens qui ont essayé de vivre une vie dans laquelle ils ont leurs principes et ils les respectent. C'est d'ailleurs le sujet du podcast, hein, c'est je vous présente des gens comme ça. Et dans ces gens-là, ils ont tous pris les décisions eux-mêmes, ils ont tous, sont tous responsabilisés, ils ont tous choisi la vie qu'ils avaient envie de mener. Et voilà, essayer de jouer avec les règles qu'ils subissent. C'est-à-dire que si nous, on avait été dans un pays dans lequel on a un passeport qui est tout pourri, qui ne permet pas de voyager, eh ben, il y a quand même des gens qui auraient dit, bah, allez, moi je m'en fous, je vais me démerder pour avoir des visas parce que j'ai envie de voyager, je le fais. Et d'autres qui vont dire, bah, j'abandonne l'idée de voyager. Donc là, c'est ça, en fait, le vrai. Comment aborder la récente décision française? D'ailleurs, ma réponse, c'est qu'en fait, responsabilise-toi et vois en fait le vrai piège ici, le vrai problème. Et qu'est-ce que tu abandonnes? Donc voilà, moi, c'est ça que je dirais. Après, c'est chacun avec son paradigme, évidemment. Tu vois, moi, je suis pas une femme célibataire avec trois enfants qui travaille dans un hôpital. Je vais pas lui dire, ouais, bah, tu sais quoi, par principe, tu devrais démissionner. Ah, sinon, bah oui, mais tu vois, on a tous nos obligations, nos impératifs. Donc voilà, mais de la même manière, c'est-à-dire pour les gens qui vont se dire, j'ai juste à tricher et aller entre les mailles du filet. Oui, mais c'est la même chose en fait. Tu continues à jouer ce jeu-là. Donc c'est ça. Moi, dans un monde idéal, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait plus ça, tu vois. Mais il y a énormément de choses à changer. Mais voilà, tu peux pas, comme on disait tout à l'heure avec l'alimentation, tu peux pas convaincre des gens qui veulent pas être convaincus. Tu peux pas projeter, inférer ta vision du monde sur les gens. C'est chacun sa vision du monde. Mais moi, ce que j'essaye de faire en répondant à cette question, c'est d'ajouter une pointe de positivité, d'enthousiasme et de se dire, hey! On est tous humains sur cette belle planète, on a des libertés. Et je ne te parle même pas au niveau droit de l'homme ou ce qu'il y a dans le texte. Non, je te parle, tu as des libertés. Tu es un animal sur la terre, tu as des libertés. La terre est à toi. Donc c'est en défense de ça que j'invite à une réflexion, à une prise de réflexion. Moi, de mon côté, personnellement, ça m'handicape pour la création, l'organisation des retraites et des week-ends. Donc moi, dans mon paradigme à moi, c'est ça que je vais essayer de me concentrer là-dessus et c'est ça que je vais essayer de résoudre. Mais personnellement, moi, la santé physique, etc., j'en ai fait mon métier parce que, en fait, j'y suis trop attaché pour l'abandonner à qui que ce soit. Comme je te disais, la pharmacie, j'y mets pas les pieds. Les kinés, les ostéos, les masseurs, j'y mets pas les pieds parce que je ne veux pas. Tu vois? Je veux apprendre à me gérer seul. Donc là, de la même manière qu'on propose des vaccins, des trucs et tout, ça rentre même pas dans mon paradigme, tu vois? De la même manière que les autres distractions. Pour moi, c'est tout ça, c'est du divertissement. Dans mon expérience de vie. Après, pour les gens, je te dis, il y a d'autres contraintes. Tu vois, moi, j'ai pas 75 ans, enfin, j'ai pas 90 ans même. J'ai pas, comme je disais, je suis pas une maman avec trois enfants. J'ai pas d'autres responsabilités. J'ai déjà créé bien en avance un autre style de vie. Donc voilà. Moi, c'est ça que j'invite les gens à faire au maximum, c'est essayer de prendre toutes ces variables-là d'essayer de se projeter et pas vivre dans une illusion qui aura une sortie qui va venir de l'extérieur, une solution qui va venir de l'extérieur ou de l'aide qui va venir de l'extérieur et de se dire, bah, tu sais quoi, je vais rien faire et la voie de la passivité, elle ne mène nulle part. Elle mène à vraiment l'échec et qu'à des choses négatives. C'est de la même manière avec le corps, c'est-à-dire que la passivité, ne rien faire, tu te dégrades. Il n'y a pas de notion de ne rien faire, ça nous laisse au même niveau. C'est-à-dire que les gens qui vont se dire, bah, tu sais quoi, moi je dis rien, je fais rien. Et j'attends. Et l'année prochaine, il y a des élections, il y aura un nouveau président, ça va peut-être changer. Non, mais ça, c'est la même chose que de dire j'abandonne mes libertés. C'est à l'identique. Tu vois, quelqu'un qui se dit je ne prends pas soin de mon alimentation, je m'abandonne et on verra bien ce qui se passe, c'est de la même, c'est exactement la même chose que le mec qui se dit je décide consciemment de manger de la merde. Mais vous êtes dans le même panier, d'accord? C'est la même personne. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que le non-choix, ça n'existe pas. C'est que tu fais le choix négatif, tu vois. C'est un ou zéro. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là que j'avais envie de partager là pour cette question-là. Comme je te dis, moi, dans mon expérience personnelle, c'est juste les retraites et les week-ends. sur lesquelles je réfléchis. Donc pour l'instant, la décision, elle n'est même pas encore prise. Donc il n'y a rien, tu vois, techniquement, il n'y a rien. Deuxièmement, sur tous les délires de on va vous forcer à vous faire vacciner, il n'y a pas un gars avec un flingue qui va venir qui va te forcer. Ça, c'est faux aussi. T'as le choix tout le temps de dire, bah non, si t'as pas envie, tu dis, je ne me fais pas vacciner, tu vois. Donc ça aussi, il faut comprendre ce qui se passe aussi. Tout ça, c'est des effets d'annonce. Faut toujours essayer de se ramener au concret, tu vois. C'est-à-dire qu'au concret, non, il n'y a pas un gars qui va prendre une seringue, qui va te la forcer pendant que tu dors. Donc, faut arrêter de paniquer, faut rester calme. Mais de la même manière, en fait, c'est toujours regarder à l'intérieur et partir de soi vers l'extérieur. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon expérience de vie pour maintenir mon intégrité, préserver ma liberté et de pas l'abandonner, tu vois, malgré les pressions, malgré les arguments. C'est-à-dire que, tu vois, comme les gens qui décident de tout quitter, de partir à la campagne et de vivre à la campagne, bon, c'est un vrai choix, tu vois, ça a des vraies conséquences sur la vie et ce sont les vrais choix difficiles. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu vois, moi, je prends l'exemple de à Bali, il y a eu les restrictions. Le 1er juillet, ils ont annoncé. Le 2, j'étais dans l'avion. Et mes potes sont là-bas et ils sont en train de subir toutes les restrictions, etc. Je ne dis pas que c'est la solution à faire. Je ne dis pas qu'il faut directement réagir au quart de tour et qu'on a tous on va dire, la capacité financière, physique, on est tous en santé pour le faire. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il ne faut pas esquiver les vraies décisions qui importent, celle de préserver ou non sa liberté de choix. Donc, c'est tout ce que je dis. Donc voilà, pas subir, on va dire, les effets d'annonce, les paniques orchestres qui sont volontaires, qui ont derrière, enfin, derrière qui il y a une vraie volonté de nous faire paniquer, et juste se ramener à soi et se dire, bah non, en fait, moi, c'est comme ça que je veux vivre sur cette terre, peu importe ce que lui ou ce que d'autres font, je m'adapte avec, en gardant ces principes-là et en essayant au mieux, avec mon historique de vie, avec mes expériences, etc. Je pense pas que si quelqu'un te donne des conseils sur comment aborder cette situation, comment la gérer pour toi, je pense que c'est un charlatan. Fais ce que toi, en capacité, ce que tu es en capacité de faire, émotionnel, physique, en santé. Tu as quelqu'un qui n'est pas en santé, ça va être beaucoup plus difficile, tu vois, de prendre des décisions, etc. Mais si toi, tu as certaines capacités pour prendre des décisions, pour t'adapter, pour essayer de prévoir à l'avance, de dire, OK, si je fais ça, il se peut que je fasse ça. Ah, je vais avoir une solution en faisant ce travail-là, etc. Je pense qu'il est important d'agir, de se mobiliser, justement, de se mettre en mouvement, pour justement contrecarrer cette volonté, peu importe du président ou non, on s'en fout, mais il y a une volonté générale de nous enlever, notre liberté. Donc voilà, que ça soit là, cet exemple-là, avec cette décision-là, ou avec d'autres exemples, hein. Quand je te dis, tu vois, le divertissement aussi, c'est ça qui fait, on va dire l'alimentation, tu vois, transformée, etc. C'est la même volonté de t'enlever, en fait, ta capacité à vivre une expérience optimale humaine. Donc voilà, moi, c'est de ce principe-là que j'essaye toujours de partir pour prendre mes décisions, que ça soit les voyages, le travail, l'entraînement physique, c'est je pars de moi, de quelle est ma volonté, quel est mon désir dans cette expérience. Et après, voilà, les lectures, les entraînements, les expériences font que tu es un peu plus à même de rester stoïque ou non face à cette situation et un peu plus calme. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de paniquer. Et je pense pas que les prises de décision devraient être faites dans la panique. Voilà, essayez au maximum de vous abstraire du bruit ambiant et simplement de vous dire que vous avez ce droit-là, humain. Et voilà, d'agir en conséquence, tout simplement, comme d'habitude, avec vos contraintes, avec votre perspective. Il n'y a pas de bien ou mal, et faut pas se diviser non plus entre celui qui est vacciné et celui qui ne l'est pas. La femme, tu vois, célibataire, qui a quatre enfants, qui l'a fait, oui, parce que sinon elle allait perdre son travail et qu'elle a eu peur, blablabla. Faut pas les juger, faut pas juger les gens qui font et qui ne le font pas. Et faut pas se stigmatiser, faut pas se séparer. C'est aussi une volonté qui n'est pas la nôtre. Il faut simplement s'organiser, se mobiliser, se regrouper, trouver de la chaleur avec les uns les autres, partager des bonnes énergies et défendre ce qui est notre. Voilà, pour la belle question. Ouh, un peu plus d'une heure comme d'habitude. Je regarde les questions. Ah, Romain, petite quenelle. Ça, c'est le dernier commentaire. On va voir les questions. Voilà, papapap, le son est top. Je descends, je descends, je descends. L'espace de vie, merci. Eh, mais on n'a pas de questions. Il n'y a pas de chien qui masse des chiens, comment ça? Eh bien, écoutez, on n'a pas de questions, c'est magnifique. Donc, je termine sur ces belles paroles. N'hésitez pas à commenter sur justement, même là, cette dernière question, je pense qu'elle est importante. Ça me plairait d'avoir vos avis. Si vous n'avez pas envie de commenter évidemment sur le chat et que vous avez, vous voulez rester un peu plus discret, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et voilà, j'espère que cette foire aux questions vous a plu et que vous avez pu trouver des belles réponses. Moi, je vous remercie comme à chaque fois de votre fidélité, de votre loyauté. Encore une fois, tout le contenu que je partage et moi, ce que j'essaye de faire humblement, c'est simplement mettre à disposition pour vous des idées, des concepts, des choses à appliquer. Encore une fois, je pense qu'il est facile aussi pour les gens qui ne font pas ce cheminement de vie dans l'entrepreneuriat, dans le partage, qui n'ont pas peut-être accès justement à cette idée d'avoir une influence sur les gens, de facilement tomber dans le piège par principe de cohérence, de se dire, voilà, Slim ou un autre m'a aidé à, je sais pas moi, libérer mon corps des douleurs, etc. Donc, sur les sujets annexes, je vais aussi prendre son avis. C'est très flatteur, c'est très agréable, mais ça aussi, c'est un des biais collectifs dans lequel on tombe tous. N'oubliez pas que vous avez une liberté de choisir, d'accepter ou non des informations, de les traiter de la manière dont vous avez envie. Et c'est pas parce que quelqu'un t'a aidé sur un sujet, comme moi, par exemple, avec la mobilité ou le mouvement, que si je te parle demain de comment gérer tes plantes, tu devrais m'écouter. Tu vois, moi, j'ai une expertise, c'est le mouvement humain. Le reste, je ne partage simplement que mes expériences. Et c'est également l'un des points sur le podcast, c'est que je ne peux pas avoir toutes les expériences et donc il est utile pour moi d'interviewer des gens pour vous donner d'autres points de vue, vous aider à chercher les informations ailleurs et de cultiver cette pensée critique. D'accord? Ça, c'est très important pour le coup. De la même manière, pour revenir à la dernière question, comment aborder les décisions d'un gouvernement? Peu importe les décisions, c'est de la même manière. Il faut les aborder avec une pensée critique. Il faut essayer de développer au maximum sa pensée critique. Pareil avec les entraînements, avec la mobilité, pardon, le mouvement, avec l'alimentation, l'hydratation. Essayez toujours de remettre, de vous poser des questions, tout simplement, pas nécessairement de remettre en question, mais de mettre en question, tout simplement, de poser des questions sur les choses. C'est ça notre droit fondamental. Et c'est ça qui est utile de cultiver chez l'enfant et chez l'adulte, c'est de poser des questions sur des choses. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis si bien que ça dans ce travail, dans cette relation? Est-ce que mon corps me convient, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre une vie comme celle-ci? Et plus on se pose des questions, plus on s'entraîne à poser de meilleures questions et plus on arrive à de meilleures réponses. Et c'est ça qui permet, c'est cette manière de faire qui permet également d'avoir de vrais changements de paradigme, des vrais changements de vie. Et même pour rebondir avec la question de Sylvia, c'est ça qui te permet de te réinventer et d'avoir plusieurs vies en une. C'est de te poser des questions. Tu vois? C'est pas beau ça, j'ai fait le raccrocher le wagon avec deux questions. Trois questions sur cinq. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je regarde les commentaires. Merci beaucoup, Slim. Toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup à vous. Gratitude et abondance, les movers. L'épisode sera disponible en audio demain. Et on attaque la belle semaine. J'espère, après le 21, là, donc dans quelques jours, pouvoir faire des annonces concrètes, annoncer les dates, ouvrir les inscriptions pour les week-ends. On me pose énormément de questions. C'est toujours en cours, c'est toujours d'actualité. Comme vous le savez, n'étant pas physiquement en France, il est difficile pour moi d'oser planifier quelque chose et après de vous inscrire pour après vous désinscrire, etc. Donc, je préfère attendre de voir ce qui se passe. Et comme je vous le dis, pour celles et ceux qui sont intéressés par ces véritables expériences de vie, n'hésitez pas. Mais voilà, sachez que ça peut arriver comme ça. Je vais essayer au maximum une semaine d'avance et de prendre en compte les différentes choses. Mais voilà, moi, mes contraintes, elles viennent aussi avec ce style de vie de voyage que je ne peux pas trop planifier. Beaucoup de temps à l'avance, mais évidemment, c'est un choix personnel et c'est ça que j'aime bien faire aussi. Donc voilà, je vous invite à un peu de spontanéité, d'y aller pleine balle. Donc n'hésitez pas à bien suivre les emails et il y aura des informations là-dedans. Encore une fois, abondante gratitude et bienveillance les movers. Plein de bisous, portez-vous bien, restez positifs, mobilisez-vous et bougez bien. Voilà, tout simplement. Ciao, ciao les movers. Oh oui, les movers, une bien belle conversation cosmique. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé leur petite aventure vers une plus grande autonomie physique, j'ajoute ma petite pierre à l'édifice et je vous invite à récupérer ma formation mobilité gratuite, une routine de mobilité de 15 minutes qui comporte 21 exercices pour tout le corps, extrêmement simple, facile d'accès, facile à implémenter pour tous les niveaux, même si vous êtes
très très raides comme des planches de bois. N'hésitez pas à récupérer cette routine entièrement gratuite qui, je l'espère, va être un premier pas vers une plus grande autonomie physique pour regagner le contrôle de votre corps, gagner en conscience corporelle, implémenter une routine matinale positive dans laquelle vous allez bouger chacune de vos articulations dans des micro-mouvements très très simples pour petit à petit gagner en amplitude de mouvement, enlever les raideurs, enlever les douleurs, absolument sans équipement à faire à la maison, sans aucun problème. Donc je vous invite à récupérer votre routine de mobilité gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Un dernier appel à l'action pour celles et ceux qui sont friands de bons conseils, de perles de sagesse en ce qui concerne le mouvement, la mobilité, mais aussi comment vivre en conscience, l'alimentation, bref, tous les thèmes, tous les outils qui peuvent nous aider à exploiter notre potentiel humain entièrement. Je vous invite à vous inscrire à la liste email à laquelle j'envoie un email par jour, oui, un email par jour, tous les matins à 9h du matin, heure française. J'écris un long pavé, je vais être honnête, dans lequel je partage différents outils, différents principes, que ça soit de la philosophie, des protocoles d'entraînement, sur l'alimentation, sur la mobilité, le mouvement, bref, une vraie bonne dose de mouvement quotidienne. Et j'espère, avec cette manière de communiquer, vous inspirer à tous les jours gagner en conscience corporelle et vraiment vivre une meilleure expérience de vie sur Terre. Voilà, encore une fois, entièrement gratuit, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous aimez la lecture. Encore une fois, les movers, je vous remercie de votre attention, du temps que vous m'accordez, de l'intérêt que vous portez à ma discipline et à tout ce qu'elle englobe. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour le prochain épisode du podcast. Comme d'habitude, abondance, gratitude et bienveillance, les movers. Ciao, ciao. Shaku feel love, no one is uncool.